Attention à la châtaigne.
Arrêtez vos conneries! Ça suffit là! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir!
Cette soirée se situe dans ce cadre du 450e anniversaire de la mort de la Boétie. Et évidemment, la question de la servitude volontaire a beaucoup à voir avec l'expérience de Milgram.
C'est effectivement pour ça que je suis là. Voilà, le film que vous allez voir a circulé pas mal dans le monde. Il a été diffusé dans 17 pays, dans certains pays en salle, dans d'autres au cinéma. C'est un film dur. Voilà, donc accrochez-vous. On voit rarement ça parce que c'est vrai. Et ce sont des gens qui sont confrontés à quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on leur demande de torturer. Le thème de ce film est vieux de 450 ans. Et il est toujours d'actualité.
Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir !
La télé, on le sait, a un pouvoir énorme. Mais peut-elle abuser de son pouvoir au point de pousser n'importe qui à tuer? Son pouvoir est-il sans limite? C'est ce que nous avons voulu vérifier en réunissant une équipe scientifique pluridisciplinaire dirigée par le professeur de psychologie sociale, Jean-Léon Beauvois. Nous leur avons demandé de mesurer jusqu'où le pouvoir de la télé peut aller. Après plus d'une année de travail commun, nous nous sommes mis d'accord sur un protocole expérimental rigoureux, sans aucune idée préconçue des résultats. Ensemble, nous avons ajusté les derniers détails du cadre de l'expérience, un plateau de jeu de télévision. Le protocole consiste à transposer une célèbre expérience des années 60, l'expérience dite de Milgram, qui permet de mesurer le niveau de pouvoir qu'une autorité détient sur des individus. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime.
Continue, please.
Pour mesurer le pouvoir de la télé, nous avons adapté cette expérience à l'univers des jeux de divertissement. Aurons-nous plus, moins ou autant de soumission que les 62% de Milgram? Comparer les deux situations suppose que tous les paramètres de l'expérience soient respectés.
Aïe ! Putain !
Les cris de l'acteur sont l'adaptation de ceux de l'expérience de Milgram.
Sortez-moi de là ! S'il vous plaît, je ne peux plus jouer !
Le générateur de choc électrique de Milgram est transposé aux conditions d'un jeu télévisé. Milgram avait regroupé les chocs électriques en 8 zones. Nous les avons respectés. Sur le plateau, l'animatrice Tania Young va incarner l'autorité.
L'animateur qui accepte de présenter un jeu comme ça, il a quelque part aussi...
Il parle.
Il fallait maintenant recruter les candidats. Nous cherchions des volontaires n'ayant jamais participé à des jeux et n'ayant jamais cherché à le faire. Une société de marketing contacta 13 000 personnes correspondant au profil recruté par Milgram. 2500 ont accepté. Ils ont rempli un questionnaire et par tri successif, 80 sujets ont été sélectionnés. Un mois plus tard, ils sont convoqués un à un et à heure fixe. Chacun est réceptionné puis conduit dans un bureau de production. À ce stade, ils ne savent que deux choses. Ils vont participer à la mise au point d'un jeu télé. Ils ne gagneront aucune somme d'argent. Dans le bureau, l'acteur qui joue le faux candidat les attend déjà. Le producteur vient à leur rencontre. Comme le scientifique de Milgram, c'est lui qui énonce les règles.
Ah, est-ce qu'on vous a un peu raconté de quoi il retourne ?
Pas du tout,
non. Non ? Rien ?
Nous allons vous attendre, enfin.
Vous allez jouer, mais vous ne gagnerez rien. En fait, votre rôle consiste à nous aider à mettre au point le jeu.
C'est une émission test.
Voilà, d'accord. Vous ne gagnez rien. Et l'un d'entre vous sera le candidat, et l'autre, l'assistante d'animatrice, le questionneur. Voilà, là, à ce stade de notre entretien, il est temps de tirer au sort pour savoir qui sera qui. Alors, pour cela, j'ai deux papiers.
Le tirage au sort est truqué. Sur les deux cartons figure le mot questionnaire. L'acteur doit faire croire qu'il a tiré le mot candidat.
Candidat.
Très bien. Candidat. Vous allez être isolé dans une sorte de cabine et vous aurez une minute pour mémoriser une liste de 27 associations de mots. Et pendant que vous serez isolé, vous qui serez derrière un pupitre, ben vous actionnerez un levier qui enverra la punition.
D'accord.
D'accord ?
Ok.
D'accord.
Et j'ai droit à combien d'erreurs, moi ?
À la première mauvaise réponse, vous recevrez une punition. Et une fois la punition administrée, vous accéderez à la question suivante, d'où le nom de ce jeu qui est un petit peu racoleur, hein, j'en conviens, mais bon, on est à la télé, hein. La zone extrême.
Ah, ça a l'air pas mal le titre, hein, la zone extrême.
Ça vous plaît ? Et c'est quoi la punition, un gage
Un choc électrique.
Génial.
C'est pour ça qu'ils ont demandé si on n'était pas cardiaque ou...
Voilà, absolument.
Et comment ça marche ?
Alors, Sandrine ?
C'est pas moi qui vais vous envoyer ça, hein ?
Ce sera à vous, en cas de mauvaise réponse, d'administrer le châtiment. Voilà.
J'ai un mauvais rôle.
Tu vas me faire huer ?
J'appuierai sur le bouton.
Voilà.
C'est moi le méchant.
Voilà. D'accord, voilà.
Je suis le bourreau.
Voilà. Voilà. On y va ?
Bah oui.
On est parti.
C'est parti.
Moi je suis d'accord, oui.
Ouais, bah,
d'accord, je suis un peu dessus, moi. C'est pas moi qui me suis électrifié, là. C'est
bon. Moi j'ai le bon rôle, donc.
Vous m'en voulez pas.
René ?
Pas de problème pour moi.
Pas de problème, on est parti ?
Les 80 sujets donnent tous leur accord. Combien iront jusqu'au bout ? Ils signent leur cession de droit à l'image et reçoivent 40 euros de dédommagement, équivalent aux 4 dollars attribués par Milgram. Tout est maintenant en place. Les 80 candidats vont vivre exactement la même chose. Combien vont se soumettre ? Qui va se révolter ? Jusqu'où ira le public ? Pendant 10 jours, nous avons vu ça.
Désolée, je vais envoyer une décharge donc de 200 volts.
Bon, là, ça suffit, là. Vous avez compris ? Je rigole plus, là. Là, c'est vraiment insupportable, là. Vous entendez ? Vous comprenez ce que je dis ?
Allez-y, continuez. Tout terrain.
La bonne réponse était voiture sport.
Attention à la châtaigne.
Ah, arrêtez vos conneries! Ça suffit là! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Aïe! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir!
Question suivante.
Ça fait trop mal là! Laissez-moi partir! Vous n'avez pas le droit de me garder ici! Laissez-moi partir! Vous entendez?
Attendez, excusez-moi, mais.
Laissez-moi partir, merde!
Si je joue pas le jeu, enfin, honnêtement. Enfin,
vous laissez pas questionner. Questionnaire. Il faut continuer.
Personne ne s'attendait à un tel résultat. L'équipe de Jean-Léon Beauvois doutait que nous puissions atteindre une telle obéissance. Après 10 jours d'expérimentation, il fallait bien admettre la réalité. 81% des candidats étaient allés jusqu'au bout. Alors que chez Milgram, il n'était que 62%. Ainsi, la télévision peut sans contestation possible organiser demain la mise à mort d'un individu en guise de divertissement. 8 personnes sur 10 s'y soumettront. Alors pourquoi ? La clé se trouve dans l'obéissance. Nous sommes tous des êtres obéissants. Parce que vivre ensemble, c'est se plier à des règles et des lois auxquelles nous devons obéir. Ces lois, nous les avons apprises dès notre naissance. Enfant, nous apprenons les règles de vie parce que nos parents nous donnent des ordres. Quelques punitions nous ont appris qu'on ne défie pas leur autorité sans conséquence. Peu à peu, nous savons reconnaître les autorités qui sont légitimes à nous donner des ordres. Profs, parents, médecins, nous n'obéissons pas à n'importe qui. Devenus adultes, nous nous plions aux mêmes règles. Sur la route, au travail, dans la vie de tous les jours. Nous croyons être des individus autonomes, libres et indépendants. En fait, nous sommes des êtres seuls, reliés aux autres par des règles et des lois qui nous confrontent en permanence à des pouvoirs et des autorités auxquelles nous nous soumettons sans y réfléchir. La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. La désobéissance ouvre la voie à la résistance collective. En ce sens, elle est un danger pour tout pouvoir qui abuse de son autorité. Voilà pourquoi la désobéissance, en ce qu'elle conteste des règles établies, est considérée comme une infraction consciente et volontaire. À ce titre, tout contrevenant se confronte à une répression qui peut être violente et implacable. Nous passons en moyenne 3h30 par jour devant la télé, depuis l'âge de 5 ans. Sur 80 ans d'espérance de vie, cela représente 123 187 heures, soit 14 années pleines. Regarder la télé est devenu la deuxième activité de tous les Français, après le sommeil. C'est donc bien elle qui impose ses valeurs, diffuse ses modèles, au point d'être devenue une autorité totalement légitime à nous faire faire ce qu'elle veut. C'est ce qui explique 30% des obéissants n'ont à aucun moment tenté de contester les ordres.
Oui, moi ce que je retiens de cette expérience, c'est que nous avons eu des gens qui étaient des gens semblables aux autres. Ce n'étaient pas des gens d'exception. Et 80% de ces gens, dans la situation la plus naturelle de jeu, se sont comportés comme de possibles tortionnaires. Moi, je dis que cette donnée-là, 80%, reflète un pouvoir qu'a acquis la télévision, qui est quand même relativement terrifiant. Avant, il y avait la masse des fidèles, il y a eu la masse des travailleurs, il y a eu la masse des soldats. Là, il y a une masse, c'est cette masse d'individus télévisualisés, parce qu'ils ont été fabriqués à la même enseigne, ils ont été fabriqués par les mêmes pubs, ils ont été fabriqués par les mêmes séries, et ils ont même été fabriqués par les mêmes jeux, par les mêmes talk-shows. Et cette masse est une masse gérée au niveau des pensées, au niveau des attitudes, au niveau des comportements. Ben, j'appelle ça un totalitarisme. Il est tranquille parce qu'on ne tape pas sur la gueule et on ne met pas en prison.
Au début des années 2000, je travaillais beaucoup sur les mécanismes de violence. Voilà, donc je m'étais occupé d'un mouvement qui s'appelait Stop la violence. J'avais arrêté un an de bosser pour ça. Et puis, avec France 2, on avait conclu l'idée que je m'étais embarqué dans une énorme série documentaire qui s'appelait Chronique de la violence ordinaire, où j'ai passé 3 ans à Creil à me poser la question et à filmer des situations pour essayer de comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre 10 petits cons à casquette qui font chier tout le monde et une femme sur 10 qui est battue au-dessus. Est-ce qu'il y a un rapport ? Et il se trouve que pendant le tournage, il y avait une brocante à côté de chez moi. Je dis la même chose qu'au lycée hein, tout à l'heure. Et je tombe par hasard sur un type qui vendait des bouquins soldés. Et il y avait l'expérience de Milgram, dont je me souvenais parce que j'avais vu Icom Icar, parce que en première année de fac en sciences éco, j'avais eu une initiation à la psychoso. Je dis, tiens, je me souviens de ce truc. Est-ce que ça va m'apprendre quelque chose sur... À ce moment-là, j'étais beaucoup sur des bandes. Est-ce que ce truc de soumission à l'autorité est un mécanisme qu'on retrouve dans les bandes, qui peuvent expliquer, etc. Donc j'ai lu le bouquin, ça m'a rien appris sur ce que je voyais, mais c'est hyper marquant, et quand vous le lisez, c'est très facile à lire. Il n'y a pas besoin de voir les images, c'est ahurissant, quoi. Et il se trouve que quelques jours après, ou quelques semaines, je suis tombé sur TF1, que je regarde jamais d'habitude, sur un jeu qui me paraissait... Mais alors là, tombé à la renverse, s'appelait le maillon faible. Non. Et je me suis dit, mais c'était vraiment un moment d'horreur pour moi. Je me dis, mais c'est pas vrai. Les gens, ils se font humilier, ils se font insulter par Laurence Broccolini. On les traite de merde. Et les gens, on les pousse à s'éliminer. C'est un truc complètement dingue. Voilà, c'était juste avant Love Story, je crois. C'est pas encore où dans ces eaux-là, mais enfin, je regarde. Mais ça m'a horriblement choqué. Et je me suis dit à ce moment-là, parce que j'avais lu le bouquin, mais finalement, cette nana, c'est elle qui a le pouvoir qu'avait le scientifique avant. Avant, c'était la puce grise, et maintenant, c'est elle. Tiens, si on faisait ce truc, si on transposait. Voilà, ça, c'est une idée qui date de 2004. Donc, le temps que je finisse ma série, patata. Pour savoir, j'ai cherché qui était le spécialiste français de ces questions. Donc je suis à la FNAC, j'ai tout acheté de la psychologie sociale, donc vous avez un rayon, boum, voilà, et vous vous rendez compte que Jean-Léon Beauvois, en France, est le pape de cette discipline. Et que c'est un vrai penseur, et que c'est un type assez étonnant, quoi. Donc je prends contact avec lui. Il n'y croyait pas, il ne pensait pas qu'une chaîne de télé oserait faire ça. Il était réticent à l'idée de collab. Pour lui, c'est l'ennemi, la télé, quoi. Voilà. Il y a des problèmes déontologiques aussi, qui sont pas simples. Il y avait eu, quelques années auparavant, l'Association mondiale des psychiatres, ou des psychanalystes, des psychologues, qui avait décrété que cette expérience ne devait plus être reproduite. Elle date de 62, mais elle a été reproduite plus de 20 fois depuis. Sur tous les continents. Voilà, on connaît bien les résultats au Brésil, en Jordanie, à Tokyo, voilà, dans différentes situations, sur différentes époques. Elles donnent toujours le même résultat, à peu près 60% d'obéissance, quelle que soit la culture et l'époque. Donc c'est presque un invariant. Comme on sait que ça fait vraiment stresser les gens, ils avaient dit, bon, c'est plus la peine de la faire, ça va, quoi. Donc, moi, je disais, mais on la refait pas. On la transpose dans un autre univers. Et en fait, pour moi, c'était vraiment de mesurer le pouvoir de la télé. Est-ce qu'on peut avoir enfin un instrument de mesure ? Voilà. Quel est le pouvoir de 25 ans de journal télévisé de TF1 ? Est-ce qu'on peut le mesurer ? Est-ce qu'on sait la pub ? Voilà, vous lancez les yaourts au bifidus. C'était dans les débuts des années 90. Vous mettez une dame toute nue qui tient un yaourt et qui dit « mon corps va bien mieux ». Et vous savez qu'un an plus tard, ça a pris 10% de part de marché. Ça marche. Voilà. Donc le pouvoir de la pub est réel. Mais sur l'info, sur tout ça, on ne sait pas. Et c'est pas que ce n'est pas étudié, c'est qu'on n'a pas d'instrument. Et là, je me suis dit, il y en a un. Donc au bout de deux ans, on avait des contacts très, très, très éloignés, mais voilà, il me dit, écoute, j'en ai parlé à mes collègues, ok, on est d'accord, faut voir. Donc je suis allé voir France 2, je terminais une série sur la Résistance, quand le temps avait passé, et pendant le tournage, j'en parle à la responsable des docs de France 2, et qui me dit, mais en une minute, mais oui, tout de suite, je connais par cœur cette expérience, parce qu'elle est enseignée à Sciences Po, à HEC, dans toutes les écoles de dirigeants. La psychologie sociale est une matière pour dirigeants. C'est très curieux. On reviendra là-dessus, si vous voulez. Mais donc, voilà, à partir de là, il a fallu l'écrire. Donc, je l'ai écrit, je l'ai soumis à Beauvois, qui a fait des corrections, j'ai repris. On a imaginé plusieurs types de mise en scène. Est-ce qu'il y avait un narrateur à l'image qui prenait tout ? Est-ce que... Bon, voilà, c'est des questions très techniques de développement d'un programme qui, de toute façon, est en prime time. Donc c'est très très écrit à l'avance, j'ai dans son protocole, et puis après il y a tout le travail technique, c'est-à-dire de recruter les candidats, de trouver du public, de trouver un décor, de trouver un dispositif de jeu, donc de recruter des professionnels des jeux. La musique débile que vous entendez, c'est une musique originale de jeu. Le réalisateur Gilles Amado, c'est un des grands réalisateurs de TF1. Il fallait tout que ce soit comme pour de vrai. Donc c'est énormément de moyens, il y a 18 caméras, c'est quand même, bon voilà, c'est un truc de fou. Et puis quand le tournage de l'expérience a duré 10 jours, quand il s'est terminé, d'abord on était morts, lessivés, parce que vous voyez ça 80 fois, pendant 10 jours, c'est épouvantable, personne ne dormait depuis des jours et des nuits, toutes nos réactions étaient de supplier que les mecs désobéissent, dès le premier après-midi, quoi. C'était tellement effrayant. Donc dès qu'il y en avait un qui désobéissait, on avait envie de le serrer dans nos bras. C'était l'empathie complète, quoi. On était vraiment devenu barge. Mais surtout, l'ampleur des résultats était telle que ça a vraiment désarçonné les scientifiques. C'est-à-dire 20 points de plus que 1000 grammes. Il y avait un vrai problème conceptuel. Vrai. Donc ils sont tous repartis à l'étude. Ça a mis plusieurs mois. Et donc ce que vous voyez entre l'expérience et ce qui est filmé dans la Villa Savoie, la Villa du Corbu, là, non ? Il y a 5 mois d'écart. On est entre avril et août. Donc ils avaient repris leurs études, ils s'étaient confrontés avec des collègues, ils en ont fait monter d'autres. Ça a été vraiment un énorme débat. Et donc ils s'étaient mis d'accord sur cette notion qu'on n'est plus seulement dans l'état agentique que décrit Milgram. On est dans un autre concept qu'avait créé Moscovici, le père du ministre, qui est un très grand psychologue social aussi, qui était un collègue de Milgram. Ils avaient beaucoup bossé ensemble dans les années 70, et lui, Moscovici, avait travaillé sur les minorités, et comment les minorités agissent par rapport aux majorités. Bref, c'est des détails, mais sauf que c'est lui qui a inventé ce concept d'emprise. Et l'emprise, c'est très intéressant. Là, c'est dit très très rapide, et c'est pour ça, en voyant le film, je me dis, bon, il est étouffant ce film, on a envie qu'au bout d'une heure, ça s'arrête, quoi. Ça va, on a vu, quoi. Mais on a tellement de trucs à dire qu'il devrait durer 2h30. Parce qu'il y a le public, il y a tout ça, et on ne l'a pas traité. Mais en tout cas, ça, cette l'emprise, qu'est-ce que c'est en psychologie sociale ? Je vais donner deux exemples simples. Fukushima, accident nucléaire. Eh ben, vous êtes Premier ministre, vous êtes chef de l'armée japonaise, ou le concierge de l'hôtel qui était à côté, vous êtes tous sous la domination de ce nuage radioactif, quoi qu'on fasse. Vous êtes sous l'emprise d'un truc qui dépasse la somme des individus, les hiérarchies et tout. Vous prenez une multinationale aujourd'hui. Voilà, donc après qu'il y avait deux labos pharmaceutiques dans votre ville, ils appartiennent à qui ? qui ont été rachetés, re-rachetés, re-re-rachetés. C'est, dans une, c'est devenu une filiale d'un groupe de machins, de trucs, etc. On ne sait même plus à qui ça appartient. Ça, ça appartient au marché. C'est qui le marché, on ne sait pas. Et même le PDG de la filiale ici, le directeur général, il obéit à des ordres qui sont édictés par personne, finalement. Un conseil d'administration, une assemblée... Tout le monde est sous cette domination. C'est un truc assez étonnant. Voilà, comme la religion, comme des trucs comme ça, ce sont des systèmes d'emprise. Alors, ils sont plus ou moins efficaces et prégnants. Mais ce n'est pas tout à fait pareil que simplement l'état agentique de la situation pure qu'il y a chez Milgram, un scientifique, un homme, et un test, et voilà. C'est donc la domination d'un homme et du système qui représente la science, bien sûr. Mais là, c'était vraiment... Donc, quand on a eu ce truc conceptuel, on a enregistré, et après, ça a été encore 6 mois de montage. Voilà, parce qu'on avait vraiment... Il y a eu 3 mois avant, 6 mois là, ouais, au total 9. Hein. C'était très, très dur à faire. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que en le revoyant, je regrette beaucoup certaines variantes qu'on a testées, que vous ne voyez pas, et notamment une qui était très intéressante chez Milgram, qui faisait effondrer le taux d'obéissance, qui était... le conflit d'autorité. C'est-à-dire que Milgram avait imaginé un moment qu'il y avait 2 scientifiques et qu'à 180 volts, le premier scientifique dit continuer et l'autre dit non, arrêtez là. C'est bon, arrêtez. Non, continuez. Qui va suivre tout ? Chez Milgram, 100% des gens suivent celui qui dit arrêtez. Évidemment, vous vous resocialisez, il y a enfin quelqu'un qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, il a la légitimité de l'autorité, hop, vous engouffrez. Vous êtes toujours obéissant, mais à quelque chose qui s'accorde à vos valeurs. Donc on a fait un peu la même chose. Et ce n'était pas tant 2 animatrices, mais c'était la jeune fille qu'on voit au début du film qui accompagne en sortant de voiture les candidats, qui fait signer les contrats et tout. En fait, elle reste près d'une heure avec chaque candidat, au maquillage, elle les accompagne, c'est vraiment... Et elle représente la production. Et donc, à 180 volts, elle pénètre sur le plateau, elle jette son casque, et elle dit « Non, mais ça va pas, Tania, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un type qui est en train de crever là, on arrête. On arrête !» Et elle le fait avec une véhémence, et il y a engueulade entre les deux. « Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est mon émission, sors d'ici, devant le public, devant tout, quoi. Le truc impossible. » Donc, effectivement, tout le monde pouvait saisir la perche. Personne ne l'a saisie. Personne de cet échantillon-là. Et le pire, c'est quand on les interrogeait après, ils avaient tous obéi, ils ne s'en souvenaient quasiment pas. Ah oui, il y a eu un incident à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Complètement perdu dans le truc. Donc là, c'est là qu'on a compris qu'on n'était pas dans la même situation que Milgram et qu'il s'agissait vraiment d'un système d'emprise. Et ça, un système d'emprise, c'est très très compliqué à saisir et à comprendre. Alors après, il y a eu beaucoup de polémiques quand le film est sorti, où on nous a accusés de... Moi, ce que je veux juste dire, et c'était surtout pour régler mes comptes avec une discipline que j'aime beaucoup, qui sont les cultural studies, les études culturelles, tout ce courant nord-américain, et puis même de pays émergents, hein, qui repensent complètement les théories du genre et tout ça. Vous connaissez un peu? Et donc, c'est très gramscien comme truc, sur l'hégémonie, sur... Et j'ai eu un affrontement avec un des chercheurs là-dessus qui disait « Mais non, vous ne comprenez rien, la télévision... » Et c'est vrai, chacun la récupère, et chacun lui donne un sens qu'il veut. C'est pas monolithique. Le rapport entre l'émetteur de messages et le récepteur n'est pas un sens unique, c'est pas un bourrage de crâne. Et il y a effectivement la preuve, là, vous êtes nombreux, les jeunes, là, je vous ai tous déjà regardé de la télé-réalité. Vous trouvez ça grotesque, probablement. Vous le regardez quand même. Si vous détournez le truc premier, Nabila, ça vous fait hurler de rire. Vous le prenez pas au sérieux. Vous jouez avec. Donc vous récupérez un message de l'émetteur que vous transformez pour en faire du second degré. Bon, ça marche beaucoup, ce truc-là, avec la télé. On a 20 groupes de 100 de un peu plus de 100 personnes. Au total, ça fait 2000 personnes. Ils viennent soit pour une matinée, soit pour une après-midi. Dans une matinée, il y a 4 candidats. Une après-midi, pareil. Donc sur 10 jours, ça fait 80. Et donc, le premier candidat qu'ils voient, ils ne savent rien. Ils viennent, comme les candidats, participer à la mise au point d'un jeu. Donc ils sont totalement naïfs. Et donc on a chaque groupe a une fois la naïveté. Et à la fin de chaque fois, j'allais sur le plateau, je leur disais, je vous explique ce qui se passe. Maintenant, on vous demande non plus d'être naïf, mais d'être complice avec nous. Une fois que j'avais fait les explications, garder le secret, jouer le jeu, c'est une expérience. On mesure le plus. Alors quand ils étaient naïfs, et là il y avait un chercheur en sciences de la communication qui était là, du CELSA, pour étudier ça. Et c'est ça que j'ai pas pu mettre dans le film, et ça m'énerve. Mais la réaction première des gens était d'applaudir, châtiment, 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 et en se tournant avec leurs voisins, en disant, ils sont tarés quand même. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes double. On est vraiment là dans l'ubiquité totale. C'est-à-dire vous êtes conscient que vous... Et d'ailleurs, quand vous êtes public télé, vous participez à un spectacle. Vous savez que vous y allez pour faire le spectacle. Vous suivez les... C'est contrairement au théâtre ou au sport, où si vous voulez jeter le mec sur scène, vous le jetez. À la télé, vous ne faites pas ça. À la télé, vous participez du spectacle, vous levez quand il faut, vous applaudissez quand on vous le dit et tout. Et ça ne vous empêche pas de dire à votre voisin, ils sont tarés quand même. Bon, voilà. Et plein de gens faisaient ça. C'est-à-dire qu'il y avait une distance avec le truc, tout en faisant masse. Tout en acceptant d'être 100 personnes qui n'en sont qu'une, d'être pavlovien. Applaudissez, taisez-vous, encouragez, sifflez, bon voilà. C'est très perturbant. Il y a, sur les 2000, il y en a que 3 ou 4 qui sont partis à un moment, avec qui on a beaucoup discuté, voilà, qui étaient, mais vraiment 3 ou 4 sur 2000. Hein. Les gens jouent vraiment. C'est-à-dire, ils essayent de retenir la liste, et ils jouent avec le type, et ils... Tout le monde le trouve mauvais. Et c'est parce qu'ils le trouvent mauvais aussi qu'ils sont un peu comme les candidats. Ça justifie le fait qu'on lui fasse mal et ça fait baisser leur stress. Ah bah ouais, mais s'il est si con... voilà, quoi. Vous voyez le genre de raisonnement. Mais on l'a tous dans la vie, ce genre de truc. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un dans la souffrance, dans la peine, dans la difficulté, et souvent, pour pas basculer dans l'indignation et tout, on se trouve des justifications qui vont... Ah ouais, mais il est con. Voilà, j'y peux rien. Voilà. On peut parler des Roms, si vous voulez. On peut parler des Roms. Ça jette un petit froid, là, peut-être. C'est ça. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a marre, des Roms. C'est de leur faute. Ils sont cons. C'est quand même ce qu'on entend tous les jours. Bon, donc c'est la faute des immigrés. Quel est l'antidote? Bon. Il y a du service public et qui n'est pas si nul que ça. Donc, c'est aussi voilà, c'est la télé a un pouvoir. Le problème de tout pouvoir, c'est comment elle s'en sert. Donc, est-ce qu'on s'en sert dans un but d'éduquer, divertir, informer, mission du service public, ou est-ce qu'on s'en sert pour faire un max de thunes, ce qui est la télé commerciale. Non, ça détermine immédiatement les programmes que vous allez faire. Donc, le problème. De TF1 comme de M6, et je ne vous parle même pas de la TNT, c'est de convaincre des annonceurs que les programmes qui seront diffusés permettent à la publicité de bien passer. Bon, la fameuse phrase de Lelay, le temps de cerveau disponible, c'est mon métier, je vends ça à Coca-Cola. Et c'est vrai. Donc, quand vous regardez la télé-réalité, regardez dans ces détails, voilà, on avait fait un deuxième film qui suivait ça, qui s'appelait justement « Le temps de cerveau disponible ». Et on voit voilà, des profs du CELSA qui décortiquent des séquences dans Koh-Lanta où vous voyez... alors on voit très bien la scène. Il y a l'animateur qui est face à trois candidats qui sont exténués, qui n'ont pas bouffé depuis 24 heures. Et il lui dit « Si vous réussissez cette épreuve, vous aurez... » Et alors il sort de la mousse au chocolat et un steak. Donc on le voit. Mais d'abord, pub. Et alors, on vient de voir des mecs pendant un quart d'heure en train de privation et tout, et vous rentrez dans un univers. Le frigo est plein, la voiture tourne bien, la robe est superbe, et la mousse au chocolat est là, et la viande charal est là, et tout s'enchaîne. Et c'est heureusement que ma vie quotidienne, quand je consomme, elle est bien. Et je retourne en enfer chez Koh-Lanta. C'est effectivement totalement pensé. Où vous pouvez prendre toutes les émissions d'enfermement, soit de Love Story à Secret Store, enfin toutes ces conneries. Quel est le principe du jeu? C'est, il y a une règle au départ. Vous n'avez pas le droit de parler de politique, pas le droit de parler de sujets de société. Vous ne parlez que de vous. Donc, au bout de 2 jours, toutes les discussions tournent sur comment je customise mes fringues, comment je fais mes ongles, et comment tu trouves Jean-Edouard. Des conversations d'une banalité affligeante. Mais à partir du moment où vous ne parlez que des objets de consommation qu'on vous donne, vous recréez l'univers dans lequel la pub va pouvoir être valorisée. Toute la télé-réalité est pensée comme ça. Ce sont des écrins publicitaires. Donc c'est pensé comme ça. Et le problème, c'est que... Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des programmes qui fonctionnent sur une promesse, qui est voyeur. Qu'est-ce que le voyeurisme ? Une pulsion. Donc j'essaie d'expliquer ça aux secondes tout à l'heure. Et voilà, vous avez en gros 3 grands domaines qu'un média peut toucher en vous. Vos émotions, la libido, tout le domaine du désir, de l'imaginaire, de tout ça. Vous avez la raison, on va réfléchir, on sait rien. Et vous avez la pulsion. Bon, le documentaire, la fiction, tout ça marche en général sur émotion et raison. Où est ? Avec la télé-réalité, et c'était ça le maillon faible, c'était ça ces jeux qui arrivent à la fin des années 90, tout d'un coup, on vous met en position de voyeur. Et être en position de voyeur transforme complètement votre rapport à l'image. C'est-à-dire tout d'un coup, vous ne le regardez pas pour être ému ou pour comprendre, mais parce que vous êtes scotché. Ah ! Donc la télé l'organise dans sa mise en scène. C'est-à-dire, regardez toutes ces émissions, vous verrez qu'il n'y a pas un plan qui dure plus d'une demi-seconde. C'est stroboscopique, pour vous éviter de zapper. La télé zappe à votre place, mais dans la même émission. Donc vous n'avez pas le temps. C'est pop, 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 et vous voyez des trucs ahurissants. Vous vous dites, mais c'est pas vrai, je rêve. Et quand vous dites ça, vous ne pouvez pas changer de chaîne. Vous regardez. Donc vous rentrez dans la pulsion. Le problème de la pulsion... C'est comme celle de l'exhibitionniste. C'est que plus vous montrez, et plus vous êtes frustré. Donc il en faut plus. Donc année après année, d'où l'arrivée de la violence. D'où, enfin bon, Koh-Lanta, il y a eu un mort. Il y en a eu 2 autres sur des versions étrangères de Koh-Lanta. Ça s'appelle Survivor, le jeu à l'étranger. Bon, voilà, on s'en fout. 3 morts, plus le médecin qui s'est suicidé. On s'en fout. C'est comme ça. Il y a eu d'autres cas de télé-réalité au Brésil où le producteur, et c'est vrai, enfin, quand je le dis, j'ai l'impression que c'est la science-fiction, mais c'est vrai, le producteur qui faisait un espèce de d'émission de recherche de criminels. Il y avait ça par Pradel dans les années 80 sur TF1. Je ne sais plus comment ça s'appelait, Témoin numéro 1, un truc comme ça. Bon, au Brésil, c'était une énorme émission, mais ça manquait de sang. Le mec a fait organiser par son fils et un gang de Rio des assassinats qu'il filmait lui-même et dont il filait les coupables. Voilà, et toute la ville devait courser. Il en a fait 3. Le mec était devenu député tellement son émission était forte. Et donc il a eu l'immunité parlementaire qui a empêché qu'il soit. On en est là, quoi. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais voilà, c'est absolument insupportable. Alors, comment s'éduquer, nous ? Ben voilà, d'abord, défendre le service public, ça, c'est important. Deuxièmement, apprendre à reconnaître les choses. Ce film-là vous donne des pistes. Là aussi, j'ai ce regret de ne pas avoir insisté là-dessus. Finalement, quand vous vous mettez à rire bêtement, quand vous vous mettez à transpirer sans savoir pourquoi, posez-vous la question de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que la seule clé, elle est en vous. Alors, nous sommes dans des situations qui nous dépassent et on n'est pas armé pour les affronter. C'est bien pour ça que c'est enseigné dans toutes les écoles de management, toutes ces techniques, parce qu'ils s'en servent. Voilà. Donc à nous de nous les réapproprier. Et c'est vraiment une discipline, à mon avis, qui devrait être vraiment enseignée au lycée. Apprenez à comprendre comment marche le rapport d'un individu dans un groupe. Et donc nous ne sommes pas les êtres libres, autonomes, moraux, responsables qu'on croit être. Nous sommes déterminés par un tas de trucs. Apprenons à les repérer pour vraiment faire comme la Boétie disait. Voilà, nous affranchir. C'est très, très compliqué. Mais je vois pas d'autre solution. Alors, sur les désobéissants, parce que c'est ça qui, pour nous, était presque le plus intéressant. Parce qu'honnêtement, sur les obéissants, voilà, vous êtes quoi, 100 là ? On aurait la même proportion, hein.
avec vous. Et nous aussi dans l'équipe, si on n'était pas au courant avant, 80% en fait de nous-mêmes à l'intérieur de nous obéir. Bon. Alors qui sont ces désobéissants? Bon, alors d'abord, comment ils ont réagi? Vous voyez que pour certains, c'est vraiment hyper violent. Hyper violent. C'est bien ça le problème de la désobéissance, c'est vraiment se battre de façon incroyable. Et là, il y en a un qui était un prof, qui a été absolument génial, et qui, à 180 volts, s'oppose à Tania. Et quand Tania dit « Mais qu'en pense le public ?» Le public gueule. Et lui, il s'est tourné vers le public, et il a vu une vieille dame, et il dit « Oh non, madame, pas vous. » Il a retourné le truc. Et la bonne femme, elle disait « Châtiment, châtiment. » Complètement ciseaux comme truc. Ah, madame est d'accord avec moi. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Et vous, madame, il s'est mis à retourner la situation. Il a pris le pouvoir. Et en fait, de la désobéissance, il est vraiment passé à la résistance. C'est-à-dire une espèce d'action collective. Il a fait voter les gens. Est-ce que vous voulez que je continue? Donc le chauffeur dit oui. Hein. Les deux tiers des gens ont dit non. Mais parce qu'ils étaient sollicités. Voilà. Donc personne ne l'a fait volontairement. Mais dès qu'il y a l'échappatoire, tout le monde y va. C'est normal, on est humain, on est sociaux. Alors ce type au débriefing arrive, et bon, raconte pendant un quart d'heure vachement bien. Et puis au bout d'un quart d'heure, quand je revois la vidéo, ça a été extrêmement frappant, tout d'un coup, il y a les yeux qui tombent. Il est là, et il est comme en sidération. Et il dit plus rien. Et il s'en va. Et quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit « Écoutez, je comprends rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé dans le métro. J'étais maquillé. Je crois que j'ai fait un truc pas bien. Vous m'oubliez. Vous m'oubliez. » Et je dis « Mais arrêtez, vous êtes génial. La moitié du film, c'est vous, quoi. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous avez montré, vous êtes le modèle à suivre. C'est comme ça qu'il faut faire. » Ah non, 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 vous m'oubliez. Il est venu à la première projo qu'on avait faite pour tous les candidats et leurs familles. Donc c'était 6 semaines avant la diffusion à la télé. Et lui n'est venu que pour vérifier qu'il n'était pas dans le film. Je ne l'ai plus jamais revu. Je sais qu'il a été très troublé, très secoué. Est-ce que ça a réactivé un truc en lui de quelque... Je n'en sais rien. Sinon, la chose qu'on peut dire sur ces désobéissants, on dit dans le film qu'ils n'ont aucun rapport les uns entre les autres. Ça, c'est scientifique et statistique. Je n'ai pas de chiffres qui permettent de donner une corrélation. Je peux juste constater, comme vous, que la plupart sont de minorités visibles. Des blacks, homosexuels, réfugiés politiques, immigrés, des femmes. Donc je ne sais pas si ça a un sens. À vous de faire avec. Mais je constate ça. C'est que la plupart des désobéissants viennent de minorités visibles. Quand l'American Psychiatric Congress, enfin vraiment j'ai oublié le nom de ce machin, mais bon, quand ils ont pris la décision de ne plus la refaire, c'est qu'un de leurs responsables venait de la faire. Donc on était en 2002 ou 2003, je crois, venait de faire la dernière reproduction, et effectivement avait constaté un résultat plus fort. Pas 80, mais à la marge, il y avait quelque chose de tendanciel qui disait « Merde, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc ils se sont dit, bon, on arrête de toute façon, ça va, on n'est pas dans la régression, on est en tout cas dans le haut. Et quand Beauvois a eu les chiffres, donc instantanément c'est parti sur la planète psychologie sociale des deux côtés de l'Atlantique, gros débat. Et une partie des mecs, plutôt en Europe, pense qu'il y a effectivement peut-être... je le dis vraiment avec beaucoup de conditionnels, mais il pourrait y avoir un facteur historique. C'est-à-dire que quand Milgram fait son expérience, en 61, on est à peine 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une prégnance du souvenir totalitaire, quoi qu'on soit aux États-Unis, et ils n'ont pas été occupés. Bon, mais, voilà. Et Beauvois pense que avec... l'idéologie néolibérale qui vous dit et qui vous assène que vous n'êtes pas un être social, mais vous êtes un être autonome et que c'est vous qui avez votre libre arbitre et si vous êtes consommateur, c'est votre choix, etc. dit ça c'est devenu le gigantesque pipeau qui nous fait rendre plus obéissants. Parce qu'en fait, un des fondements de la psychologie sociale dans ce domaine, et c'est un peu barge ce que je vais vous raconter, là, mais c'est qu'en fait, on est d'autant plus obéissant qu'on se sent libre. Voilà. Et que plus le système est coercitif, plus vous êtes dans un système totalitaire, plus vous êtes confronté à une violence, vous pouvez courber les chines, vous pouvez ne pas résister, mais vous ne serez pas productif, vous serez peu collaboratif, vous serez dans un truc qu'on a appelé à un moment une espèce de résistance passive. C'est pas très efficace. Voilà. Les esclaves, c'était pas très productif. Il en fallait beaucoup. Par contre, si vous êtes salarié, bénéficiez d'un truc, et que vous êtes dans un groupe où ça se stimule, la productivité est énorme, et vous dites, c'est moi qui l'ai décidé. Donc ils font des expériences qui sont complètement dingues comme ça, qui sont l'amorçage pour vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc le meilleur exemple, comme je le disais ce matin, cet après-midi, c'est l'exemple de la sécurité routière. Beauvau a beaucoup bossé pour la sécurité routière, mais aussi pour le RAID, pour beaucoup de choses. C'est lui qui a mis au point les premières campagnes sur le sida. Pourquoi ? Parce que il sait comment vous choper, nous choper. Et donc les trucs de la sécurité routière, c'est quoi ? C'est, voilà, vous avez une grande... Voilà, la rue principale, là, ici, il y a un grand virage à la sortie, et bim, il y a tous les camions qui se prennent tous les ans. Accident, mort, accident, les scooters, les motos. Voilà. Donc, vous dites à un moment, comment faire ? Donc, ils font un gros panneau, 3 mètres sur 3, avec une grosse flèche, dangereux, qui clignote, sauf que c'est le jardin de M. Durand. On peut mettre un panneau de 3 mètres sur 3 dans le jardin de M. Durand, quand même. Ben, si, on peut. Si vous allez le voir en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un panneau de 3 mètres sur 3, ça va pas, changer la voie, changer le truc, mais c'est mon jardin, quoi. Alors la technique consiste à aller le voir, toc, 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 et lui dire, bonjour, prévention routière, est-ce que, vous savez, le virage est dangereux, là, juste pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, vous pouvez mettre un petit autocollant sur votre boîte aux lettres, je soutiens la prévention routière. Oh bah oui, bien sûr, bah c'est vachement bien, voilà. Et la semaine prochaine, vous le revoyez, la semaine suivante, et dit, ah bah vous n'avez pas un plus grand là, parce que c'est bien ce truc-là, là, les gens sont volontaires. Un mois après, vous mettez le panneau 3 mètres sur 3, sans aucun problème. Cette expérience, elle a été faite des dizaines de fois, sous des tas de variantes. Je vous en donne un autre, là, dites samedi, 6h30 du matin, là, j'ai besoin de 10 personnes. On va accompagner un train entier d'handicapés physiques qui vient. Personne. Voilà. Par contre, je vous amorce et je dis, bah dis donc, là il y a des mecs sympas, tu viens m'aider, t'es libre, hein, t'es pas obligé, juste là 3 minutes là. Ah d'accord. Bon ok. Voilà. Et ben vous allez voir que le samedi vous allez venir à 6h30 du mat et vous serez content. Et vous vous direz c'est vachement bien ce que j'ai fait. À aucun moment vous aurez compris que je vous ai piégé, que je vous ai amorcé, que je vous ai amené. Beauvau pense que les types sont en état agentique à partir du moment où ils ont cliqué sur Internet pour dire « je veux bien participer ». À partir du moment où ils s'engagent, ils peuvent plus revenir en arrière. Moi, mon truc premier, c'était de flinguer TF1. Hein. Ah. Sans problème. Hein. Bon, mais c'était le but premier. Le truc second, c'est quand même... J'ai fait beaucoup de films qui tournent autour... voilà, de la dissidence dans les pays de l'Est, de la résistance en France, de l'action, de la minorité qui se bat, de trucs comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. Bon. Donc là, c'était comme si je retournais le miroir. C'est-à-dire, mais si on regardait l'obéissance. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Pas en termes d'individus, en termes de société civile. Alors, quand j'ai fait cette grosse série sur la résistance, c'était quand même 7 films, dont 2 en prime, bon voilà, 3 années de travail très dur. Et passionnant, et c'était d'essayer de comprendre comment réagit une société civile quand elle est confrontée au totalitarisme, à la barbarie, aux nazis, et de se rendre compte qu'en France, contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas une petite minorité qui s'est battue, quoi. C'est un mouvement qui s'est créé et qui, en 4 ans, a amené un phénomène de masse, une résistance armée, ce qui est pas courant à l'échelle de l'histoire. Donc je voulais raconter ça et comment ça fonctionne entre le premier jour d'occupation et le dernier. Quel est le processus qui a amené ça? Il n'y avait pas de petit manuel en 40, fais ta propre résistance 2.0. quoi. Non, tout le monde a dû inventer. Donc quel est le cheminement? Parce que c'est quand même incroyable d'avoir à rappeler que les gens ne pouvaient pas supporter les Allemands. Personne ne supporte que son pays soit occupé, à part une toute petite minorité qui va en profiter. Mais évidemment que les gens ne supportaient pas cette situation. Ce n'est pas parce que vous ne la supportez pas que vous devenez résistant. Comment on passe, justement, de cette soumission forcée à la révolte? Ça, ça me passionnait. Et bien là, tout d'un coup, c'était l'occasion de retourner, de se dire, mais comment, quand on est libre, retourner dans la soumission? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est des trucs qui me hantent. Thank you.